Hola, chers auditeurs et auditrices de Rencontres Lusophones. Boa tarde a todos. Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lusophonie. Ce soir, je serai seul aux commandes de l'émission, tout seul, comme un grand. Manu est en contact avec lui-même et Hélène a été retenue à son boulot. Moi-même, je vous ai donc préparé une chronique sur Sergio Godinho, un artiste portugais extrêmement complet. Mais avant cela, voici la petite chronique de Martine qui évoque pour nous ses premiers souvenirs et sa toute première approche avec le Portugal. C'est sa seconde participation dans l'équipe. Mais ne perdons pas plus de temps. Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Hola, salut Bissonne. Pour la petite chronique de ce soir, l'envie me vient de partager avec vous ma découverte du Portugal. Et pour la commencer, une citation de Robert Louis Stevenson. En vérité, je ne voyage pas moi pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher, simple plaisir de voyager. Voyager a toujours été un réel plaisir pour moi. Découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres personnes est d'ailleurs très grisant en soi. Croutarde dans l'âme, mon sac à dos n'a jamais vraiment été remisé, mais toujours à portée de main dans l'attente d'expédition. Mais revenons quelques années en arrière, très exactement en 1985. Muni d'un billet d'avion, du sac à dos, du barda de camping et de bonnes chaussures à deux, nous partons pour Lisbonne. En un mois, j'ai visité le Portugal du nord au sud et de l'est à l'ouest, enfin presque. J'ai grainé les kilomètres soit à pied sur les sentiers, soit en bus ou en train. À cette époque-là, les moyens de transport étaient déjà fort bien développés. Toutefois, certains trajets pouvaient être chaotiques. Rien ne m'effrayait, il me fallait assouvir cette soif de découverte de cette nouvelle contrée. J'aimais déjà écumer les lieux chargés d'histoire comme Évora ou Batalha. Le bus m'emmenait aussi vers l'Algarve en empruntant de belles petites routes arborées et en passant par de beaux petits villages avec des maisons blanchies aux couleurs lumineuses. À ce moment-là, une radio locale diffusait de la musique étrangère. L'une d'elles me restera en mémoire et passera en boucle des années durant. Mais pour voyager, n'oublions pas, il faut bien se nourrir et gastronomiquement parlant, le Portugal est une merveille. Dans un pays étranger, il y a forcément une langue étrangère. Certes, je ne parlais ni ne comprenais à l'époque un traître mot de portugais. Je me débrouillais donc à ma manière. J'aimais déjà déchiffrer les mots et je les traduisais de moi-même. Fallait bien se faire comprendre par les gens du pays, particulièrement quand l'estomac criait famine. Attablé dans un petit restaurant au cœur de Lisbonne, non ? Des mets succulents comme des sardinhas accompagnés de vinho tinto ravissaient nos papilles. J'avais étudié de fond en comble le menu et le mot queijo m'interpella. Mot qui ressemble à l'écrit comme à l'oral, au mot alsacien « queijo », c'est-à-dire « gâteau ». Une irrésistible envie de sucrer tiraillait alors mon estomac en fin de repas. Fort content de ma propre traduction, je passais commande au serveur. Imaginez seulement un instant ma tête quand il me présenta une assiette de fromage à la place de mon gâteau tant attendu. Les années ont passé, les voyages vers d'autres contrées ont succédé. La petite musique, toujours en boucle dans mon esprit avec l'image de cette route. 20 ans ont passé et en famille, nous allons rendre visite à une amie portugaise à Barcelos. Tout le monde le sait, le peuple portugais est fort accueillant. Nous passions ainsi une après-midi entière au sein de sa famille. Vive le langage des mains, personne ne comprenait ou parlait le français, et réciproquement, nous ne comprenions rien au portugais. À ce moment-là, pour moi, c'en était de trop. Je n'avais plus qu'un objectif, revenir le plus vite possible au Portugal en sachant parler cette langue. C'est avec une énergie incroyable, au sein d'une petite école, rien qu'avec des passionnés lusophones, que j'ai réussi mon pari. Je me débrouille maintenant plutôt bien en portugais. D'ailleurs, mon estomac m'en est fort reconnaissant depuis. Aujourd'hui, je ne compte plus les périples que j'effectue au Portugal, toujours avec mon sac à dos. Insatiable de culture, de randonnée, je n'y compte plus les voyages. Les amis s'y font de plus en plus nombreux et vont jusqu'à m'affirmer que je fais bientôt partie du décor portugais. Et toujours cette chanson en tête, synonyme de paysage. Ma mémoire me faisant défaut, plus aucune idée de l'endroit arboré aperçu en 1985. Les grandes distances en bus m'emmènent presque partout aujourd'hui. Il y a environ 5 ans de cela, sur la route vers le sud, j'ai un flash souvenir. Ô joie, ô bonheur, j'aperçois de l'autobus ma route arborée qui n'est autre qu'une grande avenue qui mène au port de plaisance de Faro. L'on dit bien, qui cherche trouve et je l'ai retrouvé. Sur ce, avec une pointe de nostalgie de mon premier voyage vers l'Algarve, voici la chanson américaine qui passait sur les ondes il y a plus de 35 ans. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle
culturelle.
De rencontre lusophone.
Aujourd'hui, Sergio Godinho est à l'honneur, mais c'est un artiste tellement éclectique que dans un premier temps, je survolerai rapidement sa carrière. Puis, dans un second temps, pour mieux vous faire comprendre son importance, j'ai trouvé sur le net une interview écrite. Je n'ai hélas plus le nom ni la date de cet entretien. Nous avons donc reconstitué cette discussion qui montre beaucoup de facettes de cet immense artiste qui compte dans le monde artistique portugais. Ne vous étonnez donc pas des deux voix, l'une sera celle de la journaliste et l'autre celle de Sergio. Sergio Godinho, né à Porto le 31 août 1945, est un touche-à-tout, chanteur, auteur-compositeur et poète portugais, acteur, réalisateur, dessinateur. Il a fréquenté la faculté d'économie de Porto. À l'âge de 20 ans, en 65, il quitte le Portugal afin d'éviter le service militaire obligatoire et la guerre coloniale. Il est allé en Suisse suivre des études de psychologie à Genève pendant 2 ans avec Jean Piaget pour professeur avant de se consacrer aux arts. Ensuite, il est allé aux Pays-Bas à Amsterdam, puis à Paris. Il a vécu les événements de mai 68 et il fréquente d'autres musiciens portugais exilés tels que José Mario Branco, décédé il y a peu, le 19 novembre 2019, Zeke Afonso, décédé le 23 février 87, et Luis Cilia, toujours en vie. Tous ces artistes ont pris position contre l'antifascisme à travers leurs chansons. Il est engagé pendant 2 ans dans la troupe qui joue la comédie musicale Air. Vous connaissez ? C'est à Paris qu'il commence à composer ses premières mélodies. Même s'il composait déjà de la musique, il écrivait les paroles en français, et c'est le contact avec ses compatriotes exilés qui l'a réveillé et réconcilié avec la langue portugaise.
Écoutons tiré de la comédie musicale Air, Chuifana avec Hervé Watine, Serge Goudignon, Henri Day. Si on tend l'oreille, on peut l'entendre.
Le plus beau, je suis fanat du bleu, blanc et rouge. Je suis fanat du bleu, blanc et rouge. Tu louches sur moi, qu'est-ce que tu vois? Après fanat du blanc, rouge et bleu. Après fanat du blanc, rouge et bleu. D'accord, j'ai bien l'air d'un contestataire. Je suis fanat du rouge, bleu et blanc. Je suis fanat du rouge, bleu et blanc. J'ai le cœur qui bat pour le bleu, rouge, blanc. Je suis fanat du rouge, blanc et bleu. Je suis fanat du rouge, blanc et bleu. Et les pompons jaunes.
Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous parlons d'un des plus grands artistes portugais qui compte aujourd'hui. Je veux parler de Sergio Godinho. Bon, il séjournera également au Brésil et à Vancouver, au Canada. En 71, il participe au premier album solo de José Mario Branco.
Mudam seus tempos, mudam suas vontades.
Les temps changent, les volontés changent. Fin avril 71, il a enregistré son premier disque au Strawberry Studio du Château d'Hérouville. Dans ce disque inaugural, Les Survivants,
Os Sobreviventes,
on retrouve des thèmes divers tels que le consentement mutuel, la politique, la vie de tous les jours, la distanciation inévitable de ceux qui parcourent un long voyage et qui nous paraissent revenir complètement différents. Puis il y a les vers qui nous permettent de réaliser qu'il est aussi le même. Ce disque est élu meilleur disque de l'année en 71. Disque qui a été interdit 3 jours après l'édition, étant successivement autorisé et de nouveau interdit. Il enregistre aussi Prehistorias
en 72,
alors qu'il est encore en exil. La presse a même décerné à Sergio le prix d'auteur de l'année. au Portugal. Cet album, dont l'un des grands hymnes de sa carrière, La Nuit Dernière, A Noite Passada, est sorti immédiatement. En 1974, il a édité à bout portant un nouvel album de matériel original très influencé par la situation politique nationale. En 1974, qui triomphe à travers le pays et notamment dans les manifestations populaires fréquentes après le 25 avril 1974. L'album a reçu le prix du meilleur disque portugais de l'année, décerné par le magazine Musique et Son. S'en suivront ensuite environ 30 autres disques à ce jour. Lors de son séjour canadien, Sergio Godinho contracte un premier mariage avec Sheila, de son vrai nom Sheila Charlesworth, avec laquelle il travaille dans la compagnie de théâtre Living Theatre. Il vit dans une communauté hippie de Vancouver lorsqu'il apprend la nouvelle de la révolution des œillets et rentre au Portugal. Il parcourt alors le pays et participe à toutes sortes d'actions populaires. C'est aussi à ce moment-là qu'il crée les chansons les plus emblématiques de sa carrière. Dans plusieurs des disques qui ont suivi, Sergio Godinho chante avec plusieurs chanteurs brésiliens et portugais dans la moitié de ses albums. Sergio Godinho est l'un des musiciens portugais les plus influents des 40 dernières années. Il est l'une des plumes les plus alertes et appréciées au Portugal. Il a dit de lui-même « Je ne vis pas si je ne crée pas. Je ne crée pas si je ne vis pas. » Cet équilibre incertain a toujours été la pierre d'achoppement de ma vie. Sergio Godinho a écrit des scénarios, des pièces de théâtre. Les paroles de ses chansons sont une exception par rapport aux chansons habituelles. Des thèmes comme l'amour, l'éthique sociaux, les difficultés économiques, par exemple, sont traités d'une manière extrêmement originale, tantôt amusante, tantôt émouvante. En 2011, Sergio Godinho a marqué ses 40 ans de carrière avec la sortie du disque Consentement Mutuel.
Mutuo Consentimento.
Sergio Godinho est un peu à l'image du personnage de sa chanson « L'homme aux sept instruments ». Artistiquement multiforme, expérimentateur. Il est acteur avec diverses participations dans les films, séries télévisées et pièces théâtrales, dramaturge, avec la signature de quelques pièces de théâtre et encore réalisateur, entre autres activités.
Imigrants, uns per a França i otros per a mort, i d'esta sorte ja todos vavam. Vão e vêm, nós por cá todos bem. Alugados, uns para Lisboa e outros para a vida, e à despedida uns ficam, outros vão. Vão e vêm, nós por cá todos bem. Já passamos do atalho à rua, da rua à avenida, com o peito em ferida e a garganta em lei. Não vai bem, nós por cá todos bem. Regressamos com a fúria aos ombros e com a raiva ao lume, que é já costume ver-nos sem tostão. Nem vim tem, nós por cá todos bem. Tendo as mãos com as veias duras de andar, desde sempre a trabalhar para nunca ser ninguém, nós por cá todos bem. Alugados, uns para Lisboa e outros para a vida, e à despedida uns ficam, outros vão. Vão e vêm, nós por cá todos bem. Imigrados, uns para a França e outros para a morte, e desta sorte já todos lá vão. Vão e vêm, nós por cá todos bem.
Nous arrivons maintenant au corps de l'émission. Voici la reconstitution d'une interview de Serge Godinho. Veuillez excuser le style, mais c'est une traduction approximative avec un automate de cette discussion. Et elle n'existait pas en audio. Serge Godinho a 66 ans. Il parle, il va au fond du monde, il va au fond de lui-même. Le plus tentant quand on a écrit sur lui, c'est de glisser, d'adopter, de copier des phrases percutantes, fines, lapidées, qui ont déjà dit ce que l'on veut dire. Ironie et subtilité incluse, une question de musique. Il n'aime pas parler de sa vie privée, il a 3 enfants et 3 petits-enfants, il a 2 frères qui vivent à l'étranger, il a démantelé la maison qui appartenait à ses parents il n'y a pas si longtemps et il a même un éclat créatif rare. Première question. Commençons par un vers de votre livre de poèmes. Le sang par un fil. Apportez vos mains non nettoyées, mais qu'elles soient propres. Était-ce une devise pour les voyages que vous avez entrepris en quittant le Portugal ?
Quand je suis parti du Portugal, je suis parti pour étudier. Ce que je voulais, c'était quitter le Portugal et vivre d'autres expériences, et mettre la main dessus dans d'autres vies. Les mains ne sont peut-être pas toujours propres, car elles ont toujours touché la masse des chansons. La main dans la farine, comme dans une chanson de Nougaro, la levure. Mon but, souvent non atteint, est d'être bien avec moi-même. On ne peut pas toujours le faire. Souvent, dans le vol, on traînait quelques plumes plus lourdes, plumes qui nous ramènent au sol. Nous avons tous franchi la ligne de démarcation par rapport à nos valeurs. À un moment, on se sent déjà dépassé. Et le pire, c'est de ne pas savoir quel jour ça a été. Quel jour tu t'es retourné. Ce sont des mouvements subtils. Ce ne sont pas des cataclysmes. Il y a donc des auto-alertes qu'il faut conserver.
É tão bom, uma amizade assim, ai faz tão bem. Saber com quem contar, eu quero ir ver quem me quer assim. É bom para mim, é bom para quem também me quer.
É tão bom, uma amizade assim, ai faz tão bem. Saber com quem contar, eu quero ir ver quem me quer assim. É bom para mim, é bom para quem também me quer.
Pour connaître leurs sensations de main propre, il faut que leurs valeurs ne soient pas entachées. Cela nous amène à leur construction en tant qu'individu. Dans votre formation, votre mère et votre père ont été fondamentaux. Mais c'est aussi vrai pour les livres et les disques hein ?
C'est ça. Et dans les arts, mais ce n'est pas que ça. Mes parents ont été les premiers partenaires du théâtre expérimental de Porto qu'Antonio Pedro a formé et où je me suis habitué, encore adolescent, à voir du théâtre audacieux actuel. De grandes pièces, Jean Guédès jouant des souris et des hommes de Steinbeck et Dalia Rocha. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui me donnait beaucoup de références. En ce qui concerne ma mère, il y a le côté humain, complice, qui m'a toujours fait rester proche des femmes. J'ai toujours compris l'univers féminin, pas seulement à travers elle. Ce que ma mère m'apporte, en fait, c'est quelqu'un qui m'écoute, qui sait répondre et qui sait interagir. Son frère, mon oncle Carlos, mon cher oncle Carlos, qui était un second père pour moi, avait les mêmes caractéristiques.
Sur le nouveau disque, il y a une chanson dans laquelle une petite carte généalogique est tracée. Chose rare en soi, parler de la famille, vous parlez de votre grand-mère, et de votre mère, de votre fille et de votre petite-fille. Le disque parle aussi du père, des frères, du fils, du petit-fils. Au temps de la chanson, un autre petit-fils n'était pas encore né. Cependant, ils sont exclus du titre, qui est « Lignée féminine ».
C'est arrivé par hasard. Quand ma mère est morte il y a 2 ans, et qu'elle est morte à plus de 90 ans, j'ai commencé la tâche ardue de démanteler sa maison, ce qui était très douloureux. Ce qu'on appelle saccager une maison. Elle était pleine de souvenirs. Mais il y a en même temps une communion avec celui qui est parti, avec celui qui l'a construite. Ma grand-mère, qui était la belle-mère de ma mère, et qui m'a fait apprécier le terme de belle-mère, contrairement à ce que tous les personnages de l'imaginaire enfant et de Walt Disney ont véhiculé, était la grand-mère que j'aimais, une personne stimulante intellectuellement.
Idéal Radio ?
Idéal Radio à Porto, où j'ai enregistré mon premier 78 tours. Je jouais du piano entre 10 et 12 ans. Cette grand-mère, je ne l'aimais pas beaucoup, autoritaire. Pas avec moi, mais j'ai été témoin de situations conflictuelles. J'étais attiré par elle, mais une fois par mois, j'ai commencé par étudier le français avant d'étudier l'anglais, j'allais à la librairie Lello et j'achetais un album de Tintin en français. C'est drôle que vous réalisiez que Tintin était une lecture attirante pour moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Était-ce parce que c'était un personnage ambivalent ou plus contrasté qui vous attirait ?
Non, j'avais une admiration intellectuelle pour elle. Elle disait des choses intéressantes. De l'émission de poésie que j'avais à la radio, de la poésie dite, il restait la transmission orale de la poésie. Une oralité de la poésie que j'ai toujours appréciée. Mais le caractère humain de mon autre grand-mère, qui était d'origine brésilienne et qui m'a apporté quelques références brésiliennes, était quelque chose avec lequel je me sentais beaucoup plus à l'aise.
Qu'est-ce que vous avez lu de votre grand-mère qui a été formateur pour vous ?
Je lisais beaucoup de livres. Beaucoup d'entre eux étaient les mêmes livres dans la maison de mes parents. J'ai toujours eu une grande admiration pour Essa de Queiroz. Mon père le lisait avec ferveur, le récitait par cœur. Et d'autres du même tonneau, comme Ramalho Ortigão, puis José Rodrigues Migaix, le premier livre de Fernanda Botelho. Ma mère était aussi une lectrice avide. Elle a fait ses études supérieures de piano. Elle a eu une éducation de jeune fille bien élevée. J'ai toujours aimé lire de la poésie ou des choses qui me transportaient dans d'autres mondes. Les livres de voyage ou d'aventure, Jules Verne, me donnaient aussi cette dimension. J'ai commencé à lire ça à 13 ans avec Le crime du père Amaro. J'ai tout de suite plongé dans le péché et depuis, je n'ai pas changé.
Certains des auteurs que vous avez cités traitent de choses que nous vous identifions, comme le désir du voyage, une recherche, un lien intime avec le mot.
Je n'ai jamais cessé de regarder les vieilles photos, de trouver des papiers qui avaient été stockés. Ma mère avait une façon diabolique de faire des vers. Des vers hallucinants, des vers pour les amis, lors d'un dîner à la maison. Une agilité surprenante. Et de l'humour. Une notion de la musique qui m'a beaucoup influencé. Je commence toujours une chanson par la musique. Seulement ensuite, j'écris les paroles.
En regardant la force de vos mots, on pourrait penser que le processus est inversé.
J'ai découvert que Chico Buarque travaille de la même façon. Dans Coïncidence, il y a des paroles de moi pour les chansons d'Ivan Lins. Chico était un créateur de poésie imaginaire extraordinaire. Le temps passé est le seul thème de l'album où les paroles ne sont pas de moi. Chico, donne-moi une chanson et j'écrirai dessus. C'est aussi ainsi que je travaille dans les collaborations artistiques.
Avez-vous appris ce mode avec Chico, d'écrire des paroles au sujet d'une chanson déjà faite ?
Non, mais quand j'ai commencé à composer des chansons plus régulièrement à 18 ans, Chico avait déjà fait des choses qui m'étonnaient, comme Caetano, un peu avant moi. J'allais dire plus vieux. Quand on a 60 ans, 2 ou 3 ans ne comptent plus. Ce qui compte, c'est qu'on n'ait plus 20 ans.
Avez-vous déjà appris à la maison avec votre mère l'importance de la musique, même la façon dont on travaille les mots comme si c'était de la musique ?
Bien sûr. Avec ma mère et mon père, qui étaient mélancoliques et éclectiques, on entendait beaucoup de musique brésilienne à la maison, même avant la bossa nova. Une des 40 chansons, mes 40 chansons, était « Conversation de Botequim » de Noël Rosa. Chico Diarrita, c'est un bon disque de Noël. Et beaucoup de gens pensent que c'est un disque de Noël. La fête, hein ? Non, c'est Noël Rosa, artiste brésilien né en 1910 et mort en 1937, qui est en fait un prédécesseur de Chico en termes stylistiques.
Et vous ? Vous l'avez beaucoup écouté ?
Il y avait à Noël une chronique du quotidien, un portrait de personnage qui dérivait souvent dans la gloutonnerie. Il y avait aussi beaucoup de musique française à la maison. J'ai entendu Le Déserteur écrit par Boris Vian, chanté par Mouloudji, sur un disque que mon père avait ramené de France. On entendait aussi des standards américains. Et de la musique classique jouée par ma mère et qu'on écoutait sur des disques. De la musique populaire que j'écoutais dans le Mignot. Des références si nombreuses. J'ai été élevé dans ces influences. D'autres choses sont venues à moi. João Gilberto, dans la prose, Carlos Pires, dans la poésie, Alexandre Onei. Onei a été extrêmement stimulant dans mon écriture parce qu'il m'a permis de réaliser qu'il était possible d'être à la fois profond et ludique et que les références n'ont pas à être évidentes et que nous n'avons pas à répandre la sagesse et l'érudition partout. Elles sont dans le sous-texte.
Cette subtilité est dans beaucoup de poèmes que vous composez. Je voulais dire des poèmes que vous écrivez, mais le lapsus révèle encore plus fidèlement ce qu'il voulait dire, que la poésie et la musique apparaissent en elles-mêmes de manière nombreuse.
Quand j'ai inventé l'expression « écrivain de chansons », j'ai voulu que la traduction du terme « songwriter » paraisse étrange. Nous considérons comme un écrivain celui qui écrit la fiction. Sinon, on dit un poète. Un auteur de chansons semblait, à la limite, prétentieux. Mais il avait le côté artisan de la chanson comme artefact. Et comme on dit en anglais, « brings it down to reality ». Il la rend plus concrète.
Ce qui est contenu dans l'expression « écrivain de chansons » est une pulsion narrative. C'est l'un des fondements de votre processus créatif. Dans vos chansons, Il y a description de personnages sur ce disque. Il parle d'une femme célèbre. Sur un autre disque d'un vieux samouraï, il y a longtemps, une autre chanson, Etelvina.
C'est une mise en situation. C'est un moment dans la vie d'une personne. Etelvina, c'est ça. Le comportement dans la rue de cette fille. Il est plus comportemental que l'analyse psychologique. C'était un conflit du cinéma des années 60. Qu'est-ce qui définit le mieux un personnage ? Son comportement ou son analyse psychologique ?
Le cinéma vous a tellement intéressé que vous avez réalisé quelques films et vous avez été acteur dans bien d'autres.
La psychologie du personnage apparaît dans ses comportements. Sur ce disque, il y a des personnages qui n'ont même pas de nom, mais qui ont toujours une personnalité marquée.
Sur un disque, il y a une autre chanson, Le son de la ville, et avec une forte pulsion narrative. Le thème du jeu, quelle a été votre attitude ? Si vous repensez à la métaphore du voyage, le fait est que vous ne pouvez pas esquiver le risque du joueur.
Si j'ai une lâcheté ou une autre, je la surpasse dans la pratique. Nous reculons tous à un moment donné. Dans « Au Bau » de Sigmund Freud, je chante « Le lâche est une personne qui fuit derrière. Le héros est une personne qui fuit devant. » Nous devons souvent nous arrêter pour penser, cela peut être vu comme une forme de lâcheté, ou pas.
L'audace et l'élan sont des mots fondamentaux dans le jeu. Dans votre biographie musicale, Rétroviseur en portugais, vous confessez « Il est devenu clair que mon chemin devait passer par les arts et à court terme avait besoin d'expérimenter une forme de vagabondage. » Pourquoi ? Pour se rencontrer et faire ce que vous voulez faire, vous deviez passer pour un vagabond ?
Parce que j'ai toujours senti qu'on ne pouvait pas créer sans avoir eu une vie. Le livre qui m'a fait quitter le Portugal était « On the Road » de Jacques Kerouac. C'est Manuel Antonio Pina qui me l'a montré. Nous étions camarades de lycée. Il m'a aussi montré d'autres choses. Neruda, c'était un grand auteur. C'est drôle, nos structures mentales sont très différentes. Je devais partir et Manuel Antonio Pina était de ceux qui restent. Il a toujours l'univers à l'intérieur des voyages. Je suis génétiquement un expérimentateur. Je devais essayer de sortir, vivre seul. Quand je suis allé à l'école de psychologie, c'était peut-être un manque d'audace. Je savais déjà que c'était pour les arts. Mais ce n'était pas du temps perdu.
Quanto eu não daria.
c'était pour les arts. Mais ce n'était pas pour du temps perdu ?
Oui, mais l'angle d'étude était trop centré sur mon travail. C'était surtout une période de transition, jusqu'à ce que je tombe en crise. J'ai réalisé que ce que je voulais, c'était être un créateur et un interprète. Et ensemble, ce sont les deux choses que je pratique. Au théâtre, oui. Au cinéma, j'ai même pensé à aller au cinéma. Et à la musique, déjà la guitare sur le dos. C'était la préhistoire des préhistoires.
Préhistorias. C'est le nom de votre deuxième album en 1972.
Je savais que je voulais faire d'autres choses en même temps. Faire du stop en Europe, travailler sur un bateau, traverser l'océan. J'ai fait tout ça. J'avais envie de vagabonder et d'absorber les petites expériences que j'ai failli acquérir. Même quand je suis allé à Paris, j'étais complètement précaire. Je n'avais pas d'argent. J'ai fait des boulots de survie. J'ai travaillé comme réceptionniste, veilleur de nuit, dans des hôtels de prostitution.
Vous viviez dans une zone de malaise. Vous cherchiez ça ou vous alliez le faire ?
J'allais y arriver. Je ne cherchais pas à me plonger dans le vice. En fait, je ne me plongeais pas dans le vice, mais dans la vertu. La dépendance était pour les autres. Le bon côté, c'est que j'avais de l'argent en plus parce qu'elles étaient très gentilles et elles demandaient aux clients de me donner des pourboires. Je ne cherchais pas, mais il y avait une attraction. Tout comme essayer plusieurs drogues. L'ivresse, j'avais déjà connu cela à Porto. Ce n'est même pas la même vie marginale. C'est être et ne pas être. C'est être en transit. L'environnement des bars des ports. L'environnement transitoire de qui vient et de qui part. Les gares des trains. Les chambres d'hôtel. Une sorte de lieu neutre.
En ces années de vagabondage et de recherche, cela vous faisait-il sentir à la maison? Ou au contraire, ce que vous ne vouliez pas, c'est sentir une attache avec une maison?
Je transitais. Je n'avais pas de maison. Cela n'a pas duré longtemps. 2 ans. Quand est venu mai 68, j'étais à Paris. Il n'y avait pas de règles. Je pouvais aller dans ma chambre, une chambre de bonne, un 7e étage sans ascenseur, à peu près à 1h du matin, les yeux pleins de gaz lacrymogène, ou dormir à la Sorbonne.
Qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Aussi compulsif que soit le mouvement de la recherche et le désir de continuer le voyage, y avait-il émotionnellement un dernier bastion sûr ?
C'était plutôt le sentiment que je réalisais ce que je voulais faire. Lors de ce voyage en bateau, je suis allé en Jamaïque, à la Trinité. Je travaillais dans la cuisine d'un bateau hollandais. J'ai d'abord travaillé comme docker dans le port d'Amsterdam. J'ai passé des années au milieu de l'océan Atlantique. Une fois, c'était une magnifique lune et je me sentais bien. Je n'ai dit à personne que c'était mon anniversaire. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer un télégramme à mes parents disant « Félicitations à nous tous ». Quelque chose comme ça. Cet anniversaire en solitude absolue constitue un très beau souvenir. Je sentais que les choses étaient justes. Il y a une scène dans un film de Woody Allen, Les Stardust Memories, un film injustement ignoré, où Charlotte Rampling est sur le ventre, par terre, en train de lire. À ce moment-là, elle sent que tout va bien. Et puis elle lève les yeux et lui fait un petit sourire.
Le télégramme était le sourire ? Le sourire que vous avez envoyé à vos parents ?
Exactement, ce sourire était une chose supplémentaire. Je pensais qu'ils devaient savoir que j'allais bien.
Comment se faisait la communication pendant ces années où vous étiez absent ? Était-ce 9 ans sans pouvoir venir au Portugal ?
Pour être exact, il y en a eu 7. La communication n'était pas fréquente. Il fut un temps où mon père voyageait et passait par Genève et Paris. Quand j'étudiais à Genève, je pouvais encore venir ici. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant d'obsession de la communication.
Vous écriviez des lettres, une chanson bien plus tard. Envoyez-moi une lettre bleue pour éloigner ces 5 nuages noirs. Les chansons étaient une façon d'enregistrer la découverte et le processus dans lequel vous viviez ?
J'écrivais des lettres, bien sûr, et j'en recevais. Les chansons, en ce qui concerne la langue portugaise, étaient aussi un moyen de continuer à me connecter au Portugal. J'ai commencé à composer en français. Je trouvais pas de voix. Tout me rappelait José Afonso. Jusqu'à ce que la preuve que le portugais est ma langue d'expression devienne éclatante. Les contenus musicaux et verbaux peuvent souvent être indépendants. J'ai déjà fait cette expérience. J'ai eu un spectacle appelé Troc Troc, dans lequel je coupais les paroles de faux avec la musique de la fille d'Ipanema. C'était un jeu technique, une blague.
Entre parenthèses, pour dire que les inversions sont constantes dans ce que vous faites, que ce soit dans les jeux de mots ou dans la façon dont vous regardez les situations, l'image du miroir ou des miroirs et du reflet est également récurrente.
L'image du miroir est importante, au-delà des clichés du narcissisme. Il y a 3 chansons sur ce disque où je parle de miroir, par intermittence. Tout le passé dans 2 miroirs qui sont absents de chagrin, comme si la force d'un amour présent effaçait les douleurs du passé. Même dans la vie de rechange, la femme célèbre ne sait plus quelle est l'image d'elle-même. Quand elle voit dans les doubles vitrages de la fenêtre, c'est un reflet d'elle et de ses craintes.
Parlez d'une vie de rechange dans les environs de la vraie vie. Cherchez-vous toujours une immersion dans la vraie vie ?
Je pense que oui. quelle que soit la vérité. On dirait la phrase du prince Charles lorsqu'il a épousé la princesse Diana. On lui demande « Are you in love with Diana ?» Et il répond « Oui, peu importe ce que l'amour signifie. Peu importe ce que la vraie vie est. Qu'est-ce que cela peut être ? C'est toujours une recherche. Ce sont des rencontres où nous rencontrons des aspects de nous-mêmes. J'ai souvent une sorte de dissociation du moi par rapport à moi-même. J'ai souvent l'impression de cohabiter avec d'autres personnes qui sont à mes côtés et pensent à quelque chose de légèrement différent. Mais c'est aussi moi. L'un interroge l'autre, ils le confrontent. Parfois, c'est une fatigue. Je me questionne toujours, mais ce n'est pas le fait de douter qui m'empêche de jouer.
Nous parlions de l'importance de la langue portugaise. Lorsque vous avez commencé à composer, lorsque vous vous êtes libéré du français et vous avez trouvé votre voix.
En étant loin, je l'ai fait comme un exercice conscient pour ne pas perdre le lien avec le Portugal. La langue était un véhicule pour maintenir cette connexion active. Je voulais parler de moi, de mon pays, du pays dans lequel j'avais grandi, du moment social, politique, de la guerre. J'en ai parlé de plusieurs façons. Je me souviens avoir nagé dans le port de Lexios. Je pense que c'est bien que les plages soient propres, mais on survit à tout. Surtout dans la chanson Porto, il y a un récit de la manière d'être du citoyen de Porto, de ce peuple profond, des blagues, stupides ou non, qui sont un peu l'essence du peuple de Porto. Quand je dis « venu de Vigo à Porto, sans valise ni passeport », le train était si vieux que la fumée sentait la mort. J'entre dans l'imaginaire de mon enfance, de Porto. C'était une chose à ne pas oublier, et pour réfléchir dans une chanson plus ou moins existentielle, joviale, l'avènement d'un nouveau moment, la liberté.
J'ai déjà dit que les titres, les survivants et les préhistoires, reflètent deux moments de la vie au Portugal.
Les survivants se réfèrent à ce poids qui est derrière, les préhistoires à ce qui est annoncé. Le troisième disque édité en pleine PREC, mouvement période révolutionnaire en cours, né de la révolution des œillets, le reflète aussi, le PREC.
Nous n'avons pas encore parlé de votre côté politique qui vous a collé pendant des années l'étiquette du chanteur d'intervention. Les chansons des premiers disques sont-elles politiques ?
Peut-être la moitié, je ne sais pas. Du deuxième album, la chanson « Peut-être quelqu'un »,« Être qui n'est pas é »,« Pode alguém ser quem não é », n'est pas ouvertement politique. Et la chanson « La nuit dernière » à Noite Passade, qui est la chanson paradigmatique, ne l'est pas non plus. La politique entre naturellement dans mon univers, qui est plus vaste. C'est une question difficile. Dans les interviews du projet Three Corners, avec Mario et Fausto, nous avons enterré cet épître réducteur du chanteur d'intervention. Finissons-en avec l'intervention. Nous sommes rentrés chez nous pour parler de conscience politique. C'était très naturel, parce que j'ai grandi dans cette ambiance. Dans la famille, il y avait des gens qui avaient été emprisonnés, des communistes. Avant cela, il y avait une longue tradition républicaine et maçonnique. Mon arrière-grand-père, l'acteur Verdial, a lu la proclamation du 31 janvier, le premier coup républicain raté. C'était Miguel Verdial. Ma grand-mère a participé à des rassemblements et a parlé à des dîners républicains, ce qui n'était pas commun pour une femme. Mon père ne voulait pas entendre parler de Salazar. Il est considéré comme le grand responsable du retard portugais. En ce qui concerne les colonies, il pensait qu'il fallait leur donner l'indépendance à la manière de ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. C'était très anglophile.
Vous voulez dire qu'on ne vous a pas fait payer quand vous êtes devenu réfractaire ?
Pas du tout. Ils l'ont trouvé naturel. Mon père et ma mère étaient contre cette guerre. Quand je suis parti, je savais que je n'irais jamais à la guerre. Si j'avais été pris, j'aurais trouvé un moyen de m'enfuir. Je suis parti avant qu'il ne soit temps de m'appeler. Il y avait beaucoup de gens qui y étaient allés. À un moment, il y avait une directive du Parti communiste qui disait de ne pas déserter, de participer, afin de faire le travail de sape dans la guerre elle-même.
Vous avez travaillé à Paris, mais était-ce en usine ?
C'est arrivé en mai 68, ce n'était pas une chose habituelle. Moi, Zé Mario, une chanteuse française appelée Colette Magny et d'autres, avons construit un groupe informel qui allait chanter dans les usines occupées. Je chantais encore en français. J'ai fait une chanson à chaud, ce que je ne fais pas souvent, à propos de mai 68, qui s'appelait « Les mille et une nuits ». Zé Mario se souvient d'une partie de cette chanson, ceci est rapporté dans la fabrication des trois chants. J'ai composé beaucoup de chansons qui se sont perdues. J'ai l'impression que beaucoup de bonnes idées se perdent, ou parce que je me suis endormi, ou parce que j'étais dans un endroit où je ne pouvais pas les noter. Mais il faut perdre pour garder d'autres choses. Il faut du temps pour voir quelque chose d'inutile. Il nous apporte des sédiments pour ce que nous faisons. Parfois, j'exagère sur ce point. J'ai l'intention de travailler sur quelque chose, et puis je me disperse.
Sentez-vous la dispersion ou le chaos dans lequel vous êtes souvent une menace ?
C'est déjà une forme de vie, mais ça devait être plus productif. Quand on me demande, en ce qui concerne le consentement mutuel, pourquoi 5 ans se sont écoulés depuis la connexion directe, je peux dire que ce n'était pas le silence. Parfois, c'était un peu bruyant. Les trois chants, qui a pris beaucoup de temps à concevoir. Le sang pour un fil, qui m'a pris un temps créatif plus long que je ne pensais. Le tour du théâtre en tant qu'acteur avec Georges Silva Mello et les unités d'artistes. J'ai fait la bande sonore de la série L'Équateur. Et d'autres choses. J'ai toujours aimé être à cette époque prétendument immobile. Mais j'ai aussi des inquiétudes créatives. Une inquiétude qui perdure. Quand est-ce que je m'imite moi-même?
Le danger, c'est de faire du gooding.
Il faut faire attention à ne pas se contenter de répondre aux attentes des autres. Cela se reflète dans la création.
Vous avez l'air sûr de vous.
Je suis confiant. La confiance existe parce que je me suis prouvé que j'en étais capable. Cette confiance vient de la pratique, mais n'exclut pas les doutes. Et le sentiment que parfois je ne suis pas bien là.
Vous chantez sur le consentement mutuel. Le doute, c'est la certitude.
Je parle beaucoup de doute et de certitude. J'ai une chanson intitulée « Les certitudes de mon amour le plus brillant ».
La certitude, je vous mets au match brillant.
Et dedans, je parle de ses doutes. Elle se termine par une certitude. Ne dis pas que l'amour est fugace. Ce que l'on croit être de l'amour n'en est pas forcément toujours. Cela met fin à la notion d'absolu. Les questions qui se posent dans mes chansons sont des doutes. Des doutes pour les autres. Ce sont des interpellations.
Une interrogation-interpellation dans l'une de vos chansons les plus célèbres. Peut-on être qui on n'est pas ? Quand nous avons cessé d'être ce que nous pensions être et que nous sommes devenus des choses différentes de ce que nous étions, de vos voyages, avec tant de vagabondages, qu'est-ce qui reste ?
Il y a un regard sur les autres qui m'a toujours intéressé. Une certaine vision humaniste. La réflexion sur les autres, la tentative de comprendre les autres. Les gens m'intéressent au-delà de la condition sociale. Ils comptent pour vous. Et ils sont là pour se réaliser naturellement eux-mêmes. Ce pont avec les autres a été l'une des choses les plus enrichissantes. C'est aussi un déclencheur de la création et des fictions.
Pourquoi les chansons, plus que tout, sont-elles le moyen de communiquer vos fictions ? Pourquoi cette formule ?
Je jouais des rôles quand j'étais tout petit, tout seul. J'avais une mémoire complètement collante. J'écrivais une sorte de conte, et ça n'en finissait pas, je me lassais. Dans la création, je m'essouffle vite. Mon père me blâmait pour ça. Il disait « Ce qu'on commence doit finir !» Et il avait raison. C'était peut-être la raison de faire des chansons. Une chanson, je pouvais la terminer. Bien que je travaille dur, je peux clore le sujet. Un roman, non. Clore un sujet est très important. Changeons de sujet, d'accord ?
Dans la vie, c'est pareil ? Quand vous regardez ce qui était sur le bateau en route pour la Jamaïque.
Pourquoi je ne suis pas retourné au port ? Je suis venu à Lisbonne pour enregistrer un disque. Et je suis venu faire une pièce de théâtre, Liberté, Liberté. Mais Porto était mon port d'attache. J'adore retourner à Porto. Je n'aime pas revenir en arrière, recommencer des histoires.
Il y a des mots et des concepts qui réapparaissent beaucoup. Trêve, des batailles, une chose belliciste, hein, ce qui surprend.
J'utilise beaucoup un langage, sans m'en rendre compte, catastrophique. Tempête, ne pas répandre la nouvelle. La terre a tremblé hier, pas plus qu'avant-hier. Et le soleil, comme d'habitude, était un présage de calme. Dans cette chanson, je parle du lever d'un enfant et le fait d'être très proche de la nature. Ce sont les métaphores qui valent pour tout. La chanson « Bombe à retardement » est une métaphore pour le cœur ou pour les impulsions. Ton amour, quand il vibre, à vrai dire, il met une mèche sur ma poitrine, 30 battements en un seul baiser sans défaut. J'utilise souvent ces mots parce qu'ils sont essentiels. Les mots « bataille » ou « trêve » ne se réfèrent pas seulement à une guerre. Ils se réfèrent aux relations personnelles et même amoureuses. Une autre chose constante dans mon discours. Il y a plusieurs chansons sur la fin des amours. Dans l'embuscade que Kamané a chanté sur le dernier disque, il est dit « Et cette douleur dans laquelle je me vois de nous voir presque à la fin. Je ne veux jamais en parler, mais on comprend, ne serait-ce que par les chansons, que la dimension amoureuse est essentielle dans ma vie. C'est comme si on avait toujours un portrait amputé parce qu'on ne pouvait pas regarder de ce côté. Mais si vous regardez de ce côté, je pourrais ne pas comprendre certaines choses. »
Dans la chanson « Consentement mutuel », vous chantez « Comme on marche en cavale quand on cherche l'amour. » Quand vous étiez en cavale durant ces années d'aventure, c'était l'amour que vous cherchiez ?
Non, c'était les expériences en général. Sur le premier disque, Les Survivants, la chanson « Romance d'un jour sur la route » a un verset qui en est la clé. Elle est plus âgée et elle dit « Tu me parles de route et je ne connais qu'un seul sentier. » Et lui, qui est un garçon avec une guitare à l'épaule, dit « Je parlais de route et je ne connaissais que des raccourcis. » Et elle, me montrant des chemins, entre les cheminées et les rosées. Nous pensons souvent que nous enseignons aux autres et nous apprenons des autres. C'est dans ce processus de transformation de nous-mêmes que nous grandissons.
Pourquoi cette phrase, cette chanson ?
Lorsque nous sommes confrontés à des expériences difficiles, les nombreuses fois où j'étais arrêté, où j'ai eu des expériences limite, il y a un processus intuitif de rassembler ses forces, de sentir qu'il faut en tirer quelque chose de bon, que vous devez en tirer des leçons.
Qu'avez-vous appris en prison ?
D'un côté, on ressent qu'on vit une autre expérience. D'autre part, il y a un sens romanesque qui permet de sortir de nous-mêmes et de gagner en force là-dessus. J'ai subi des chocs électriques sur la tête, avec capuche et tout, pour rien. Parce qu'ils voulaient savoir, parce que c'est un rituel. Ils le font à tout le monde. Il y a une étrange force qui apparaît, j'en sais plus sur la vie que cette personne. Et à ce moment-là, vous sortez de vous et vous entrez dans quelque chose de plus grand. Vous avez l'impression de faire partie d'une histoire commune. Je suis le frère de ces personnes. Il est évident que je ne sais pas ce qui arrive à ceux qui sont torturés pendant des semaines. Ce n'était pas mon cas. La capacité de résistance est une autre chose. Je respecte profondément cela parce que j'ai aussi expérimenté ces zones épisodiquement.
Dans la première situation, vous avez été emprisonné en pleine dictature militaire avec les Living Theater, accusé de subversion et de possession de cannabis, des psychotropes comme il disait.
C'était un prétexte évident pour nous faire taire. C'était le premier jour d'un festival des arts d'or noir qui rassemblerait beaucoup de l'intelligence brésilienne. Il y avait déjà eu une campagne féroce d'une organisation d'extrême droite contre notre présence, avec des tracts distribués à la porte des églises. On a été expulsés 2 mois plus tard, puis acquittés.
La seconde, au début des années 80, vous avez également été accusé de possession de cannabis.
Ah, c'est une longue histoire. Comme qui a piégé Godinho. Et c'est la conséquence de la première accusation. La procédure d'expulsion n'avait jamais été révisée, malgré mes fréquents déplacements au Brésil. Il y a eu un mouvement de solidarité au Portugal et au Brésil qui m'a fait aimer ces gens pour toujours. La façon dont ils parlaient et s'intéressaient à l'affaire, la façon dont ils me parlaient dans la rue, toujours en liberté conditionnelle. Ils me demandaient pardon au nom du Brésil. Ils se sentaient responsables d'une chose qui m'avait fait du mal, à moi. Eux, en tant que communauté collective, le Brésil.
La musique vous a-t-elle sauvé ?
Non, parce que je n'ai jamais été perdu. Vous avez contextualisé une recherche, c'est vrai.
L'homme qui ne cherche pas le salut pourrait être titre pour vous ?
Mais ce n'est pas non plus moi qui vais sauver les autres. Ma mère disait que ça lui ferait du bien d'écouter Bach parce que ça l'apaisait. Je pense que l'écriture m'organise l'esprit, pas seulement au niveau formel. Une dynamique musicale est difficile à expliquer juste en écoutant. Et l'acte de création est essentiel parce qu'il m'aide à penser.
Vous avez poussé le travail sur le texte beaucoup plus loin, puisque vous êtes aussi l'auteur de nouvelles de votre premier roman, Coração Mais Que Perfeito, vient de sortir cette année.
Écrire un roman a été une forme de discipline particulière à laquelle je n'étais pas habitué. J'ai écrit presque tous les jours pendant 1 an et demi. Ce qui m'a poussé, c'est l'envie de savoir ce que devenaient les personnages. C'est sans doute un cliché littéraire de dire ça, mais je crois qu'ils sont vivants. D'ailleurs, mes chansons ont elles aussi très souvent des personnages, parfois réalistes, parfois mythiques.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9, c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone se termine pour aujourd'hui. Au revoir et à samedi prochain. Un gros bisou à Hélène et à Martine et un bon coup à coude à Manu. Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. On revient samedi prochain. Si vous avez aimé l'émission, vous pourrez l'écouter ou la réécouter demain soir à 20h30. Ou comme vous le savez déjà, à partir du podcast sur notre page Facebook, Rencontre lusophone au pluriel. Pour l'instant, restez sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien. Restez distants et sortez couverts. À tes mâches.